Tu ne fais pas partie du gratin? Tu ne connais pas la cousine de la grand-mère de Britney? Pas de panique, Trent Mix Radio te déroule le tapis rouge. C'est la rencontre VIP, avec Trent.
Salut tout le monde, c'est Trent. Il vous a fait sauter dans tous les sens à la fin des années 90 en tombant la chemise avec son groupe Zebda et depuis, tout a décollé pour lui avec une présélection pour le prix Goncourt. Majid Cherfi, le parolier du groupe toulousain, a accepté de papoter avec moi pour nous parler de Catégorie Reine, son nouvel album solo et de son amour inconditionnel pour la langue française. Et si vous ajoutez à ça que c'est une crème absolue, nous, on est comblés et on voulait vous en faire profiter sur Trent Mix Radio. Enjoy! Majid, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation sur Trent Mix Radio. On est très très honorés, d'autant qu'on a eu l'immense privilège de découvrir Catégorie Reine, qui est ton nouvel album solo, un mois et demi avant sa sortie. Donc on est absolument ravis et c'est une pure merveille, je tenais à te le dire. C'est un album qui est complètement autobiographique et le premier single s'appelle « Tu ». C'est celle qui m'a d'ailleurs le plus touché dans ton album parce que tu t'adresses à ton père qui est là-haut en racontant que tu ne comprends pas pourquoi il n'avait jamais eu le privilège du vouvoiement. Et tu dis d'ailleurs « Ce fut mon premier tu et je suis tombé pour deux lettres de l'alphabet ». C'est absolument magnifique. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette chanson aussi forte pour ouvrir l'album, en tout cas pour en faire la promotion ?
Voilà, j'ai pas vraiment fait un choix très objectif. Il y a des chansons comme ça qui vous sont un peu plus personnelles que d'autres. Ouais. Et donc je me suis dit bon, mais je vais mettre en lumière cette chanson tu aussi parce que j'ai beaucoup parlé des filles, j'ai beaucoup parlé de ma mère, de mes copains, etc. Et que j'avais quasi jamais eu l'occasion d'évoquer mon père.
D'accord.
Et voilà, donc c'est une façon aussi de le mettre en lumière.
Alors, le deuxième titre qui est mis en avant s'appelle Ayo. Et dans le clip, d'ailleurs, j'invite tous nos auditeurs à aller regarder ce clip sur YouTube. Il y a un double message parce qu'on te voit effeuiller des pancartes sur lesquelles tu dis que tu t'es fait virer, que tu cherches un label, que tu serais prêt à faire une tournée en Kangoo à l'arrache pour défendre l'album. Et puis, tu dis ensuite qu'il n'y a pas assez de prénoms rebeu chez les chanteurs français. Est-ce que ça sous-entend que tu t'es fait éjecter parce que tu es rebeu ou est-ce que tu encourages les chanteurs d'origine maghrébine à se mettre à la chanson française? Comment est-ce qu'il faut les prendre, ces messages sur les pancartes?
Oui, c'est un peu ça. En fait, il y a un moment où on s'est dit que c'est marrant parce que moi, j'aspirais à faire partie de ce qu'on appelle la chanson française parce que voilà, j'adore la lettre, j'aime les mots, je me suis construit sur le trio Brel, Ferré, Brassens.
Oui.
J'ai bossé pour accéder à la beauté de l'écriture. Et finalement, quand on regarde d'aussi loin qu'on remonte, on se dit tiens, la chanson française, en fait, c'est Pierre, Paul, Jacques, Louis, Jean, Michel, René. Et il n'y a jamais, cette diversité dont oui. On nous rabat les oreilles. Et dire tiens, bon, mais peut-être qu'elle n'en fera jamais partie, quelle que soit la beauté de l'œuvre, si on s'appelle Majid ou Areski. Finalement, on n'entre pas dans cette catégorie-là.
D'accord. Et alors, du coup, comme tu l'as dit, tu as toujours eu la passion du mot et de la phrase bien formulée. Tu le dis souvent, ça, en interview. Et j'ai remarqué qu'en fait, il n'y a pas un seul couplet sans rime riche. C'est une écriture qui te caractérise. Est-ce que c'est un don pour toi? Ça vient tout seul ou c'est très travaillé quand tu écris?
Non, je dirais que c'est un peu une obsession, en fait, parce que très vite dans ma vie, j'ai voulu atteindre, disons, une espèce de sommet dans l'écriture, dans la métaphore, dans la qualité poétique, en tout cas.
Oui.
Je dois avouer que j'en suis un peu prisonnier à tout le temps vouloir la crème de la crème. Je suis obsédé par la rime riche, j'en fais moins en croisé. Et maintenant, je rêverais d'en faire qui soit moins esclave de la règle poétique.
Un peu plus simple, quoi, ouais, un peu plus simple.
Plus libre, ouais.
Un peu
ouais.
Plus libre. Du coup, il n'y a pas que les rimes qui sont riches, il y a eu aussi l'année 2016 qui l'a été avec l'apparition de ton livre « Ma part de Gaulois », qui est également un chef-d'œuvre, hein, la critique est unanime. D'ailleurs, je crois que tu as fait partie de la présélection au Goncourt, si je ne me trompe pas. Ça a dû être une immense fierté pour toi. Est-ce que tu réalises ce qui vient de se passer ou pas du tout encore ?
Quelques semaines après, je commence à réaliser. Mais je vis un peu comme sur un petit nuage.
Oui.
Parce qu'au fond, je crois que j'ai rêvé de ce moment-là à l'âge de 14 ans.
Oui.
Parce que le problème pour les gens qui ont envie d'écrire, c'est qu'ils veulent être Victor Hugo à 14 ans. Et éventuellement, on devient soi à 50.
Oui, oui, c'est vrai.
Et donc, c'est comme l'achèvement d'un parcours.
Oui.
C'est vrai, j'ai rêvé qu'un jour d'un livre comme ça qui aurait une reconnaissance littéraire.
Oui.
Et puis c'est arrivé et je suis le plus heureux des hommes.
C'est bien là l'essentiel. Je voulais te dire qu'on reviendra plus en détail sur ce livre d'ailleurs que je conseille à tous les auditeurs parce qu'il est absolument magique. On va se recroiser au printemps de Bourges, Magide. J'ai demandé une interview avec toi en vrai. On reviendra beaucoup plus en détail sur ce livre parce que je crois que tu fais une lecture hein, à Bourges, c'est ça?
Oui, absolument. Ouais, c'est de lecture musicale.
D'accord. Donc j'en garde un petit peu sous le coude.
Ouais.
Magide, tu as grandi dans le quartier des Isards à Toulouse et à l'époque, tu étais le seul à avoir tenté le bac. Et tu dis que en interview, tu as dit que tu as passé ton bac pour apaiser ta mère qui voulait que ses mômes soient des étoiles. Ça t'a d'ailleurs inspiré, je crois, une chanson qui s'appelle « Inch'Allah peut-être ». Et tu dis à propos de ta maman, elle parlait la malheureuse, un français à la scie sauteuse. Je trouve que c'est une très très belle phrase. C'est un peu pour elle que tu as fait carrière dans tout ça.
Alors, pas dans la chanson, mais dans les mots. Parce qu'elle ne s'est jamais remis, finalement, au bout de 60 ans de présence en France, de ne pas avoir appris à lire, de ne pas avoir appris à écrire et à peine parler français.
Oui.
Donc elle a voulu en quelque sorte que mon stylo la venge. J'ai été pris comme ça, comme par une espèce de douleur où j'avais l'impression que si je soignais ma phrase, j'apaisais sa douleur à elle.
D'accord.
Et donc c'est un peu comme ça que je dis que ouais, j'ai eu le bac pour ma mère et une forme de reconnaissance de l'écrit pour la soulager et lui dire « Tu n'auras pas tout perdu dans ta vie ».
D'accord, c'est très très beau.
Ouais.
Je voulais évoquer une dernière chanson avec toi sur cet album. Elle s'appelle « En ce temps-là », c'est l'une de mes préférées de l'album. Et tu dis, en parlant de toi et de tes voisins de cité, « Tellement cassé dedans, cassé dehors, qu'on entendait rentre quand on nous disait « sort ». C'est très puissant et c'est déjà un constat, je trouve, assez alarmant sur la vie en cité, déjà à ton époque. Pourtant, l'air est festif, hein, l'air est très festif. Est-ce que tu penses que la situation est rattrapable en cité? J'ai l'impression qu'on est sur une pente savonneuse sans fin et que rien n'est fait et tout est à faire. Est-ce que tu gardes quand même espoir sur la situation en cité, toi qui connais la cité par cœur?
En fait, oui, je dirais que il y a une trentaine d'années, on s'était dit, d'ailleurs avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, que peut-être on vivrait un peu de fraternité, puisque la gauche le promettait. Elle promettait un monde de mixité sociale, cosmopolite.
Oui.
Et finalement, tous les rendez-vous ont été manqués. Et donc, les choses ne se sont pas améliorées dans cette idée-là d'une France nouvelle qui serait autre chose que blanche, catholique et éternelle.
Oui. Mmh.
Et donc, voilà, on attend qu'on redéfinisse un récit français qui soit autre que blanc, catholique et éternel.
Magide, j'ai une dernière question que je pose à tous mes invités. Ouais. Comme on l'a vu, tu as un parcours absolument incroyable. Tu es parti d'une banlieue toulousaine assez chaude et très modeste à la présélection au Goncourt, en passant par Zebda, évidemment, qui a fait danser la France entière et moi le premier. Quand tu regardes dans le rétro, si tu te retournes, comment est-ce que tu le qualifierais ce parcours? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu retiens de tout ça?
Je dirais que ça ressemble à un titre de film qui s'appelle « L'itinéraire d'un enfant gâté
». Oui.
Et que finalement, je me reviens de mes 11-12 ans où je rêvais de... un jour, je vivrai de mon écriture.
Oui.
Et quelques 40 ans plus tard, je suis arrivé un peu à ce rêve d'enfant. Et voilà, j'en retiens l'itinéraire de l'enfant gâté.
Bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite, hein, une suite aussi magnifique que jusqu'à présent. Magide, merci infiniment de nous avoir fait un coucou sur Trent Mix Radio. Tu chantais « On est chez nous avec Zebda ». Toi, tu es chez toi ici sur Trent Mix Radio. Tu reviens absolument quand tu veux. Je conseille à tous nos éditeurs d'ailleurs de se procurer Catégorie Reine, donc qui sort le 31 mars prochain, et de venir te voir en lecture concert partout en France. Merci beaucoup, Magide, d'avoir été avec nous. Merci infiniment.
Merci.